Nous voici rassemblés dans notre commune humanité et chacun dans sa précieuse singularité. Ici et maintenant, nous n'avons rien à prouver, rien à justifier. Notre présence suffit. Femmes et hommes de glaise et de souffle, d'ombre et de lumière, de doute et de foi, de rires et de larmes, chacun, chacune est accueilli dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus le Christ appelle notre Père. Que nous soyons ici dans le temple ou au loin par le moyen des réseaux sociaux, laissons cette source couler au plus profond de nous et entre nous. Et je vous invite à la prière de louange. Tu n'as pas dit « je suis », mais « je serai ». Au fini, tu préfères l'infini. Tu te méfies infiniment des limitations, des définitions. Le grand large te va mieux que le confinement. L'horizon t'enchante et les murs t'épouvantent. Tu secoues la poussière du passé et ceux qui regardent en arrière marchent de travers. En nous, tu es le possible qui veut naître. La vie qui veut vivre, le désir qui veut désirer, la patience qui veut patienter, la faim qui veut avoir faim, la persévérance qui veut persévérer. Tu es la promesse qui déborde le doute et le doute qui interroge nos paresses. Tu nous prends à revers, tu nous bouscules jusqu'à provoquer en nous la question « Qui es-tu ?» Et cette question ouvre le chemin de notre vie. Et nous te louons pour cela. Amen. Et je vous invite à vous lever et nous chanterons, comme indiqué dans la feuille de culte, au psaume 103, « Bénis ton Dieu, mon âme, en toutes choses ». Nous chanterons les strophes 1, 4, 5 et 6 du psaume 103. Prenez place. Je vous invite à entendre la volonté de Dieu pour nos vies dans ce verset de la première épître de Jean. Dieu est amour, et celui, celle, que l'amour habite, habite en Dieu, et Dieu en lui. Je vous invite à la prière. La vie n'attend pas. Elle nous fait signe à chaque instant, à chaque tournant. Et nous marchons souvent tête baissée sur nos soucis, sur nos replis. La vie n'attend pas. Les autres sont là à chaque instant, à chaque tournant. Et nous sommes souvent bien mal aimants. La vie n'attend pas. Éternel, c'est toi qui nous attends. Toi qui nous cherches inlassablement, qui nous veux vivants à chaque instant, à chaque tournant. Ouvre en nous l'espace pour ton pardon, qui est toujours commencement. Donne-nous de vivre de ton appel, qui nous rend à la belle urgence d'aimer la vie, en la faisant passer de visage en visage, à chaque instant, à chaque tournant. Amen. Et veuillez vous lever pour entendre l'annonce de la grâce de la part de l'Éternel. L'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image. Il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre, d'illuminer le monde par sa clarté, il nous rend capables d'aimer. Oui, Dieu désire la vie, notre vie, et il nous la donne sans mesure. Alléluia. Et je vous invite à chanter au cantique 219, Dieu de lumière, esprit de vie. Et nous le chantons en entier, les trois strophes.
Thank you.
Asseyez-vous. Voilà, nous avons ce matin la joie pour ce quatrième et dernier culte du cycle de culte conférence du foyer de l'âme, exil, arrachement et renouveau. Nous avons la joie d'accueillir Corinne Lanoir, qui a un très très long parcours et très riche avec la Bible. Je crois que ça fait 30 ans à peu près qu'on se connaît. Et je t'ai toujours vue plongée dans la Bible. Que ce soit, alors je ne sais pas si c'est tout à fait dans l'ordre, mais animatrice biblique, directrice du Centre œcuménique d'Agapé en Italie, et coordinatrice de la formation interculturelle de prédicateurs laïcs, toujours en Italie pour l'Église vaudoise, que ce soit au Nicaragua, où tu es allée de nombreuses fois. Je crois que tu es aussi allée en Afrique, un petit peu aussi, voilà. Et maintenant, comme professeur de théologie d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie à Paris, eh bien voilà, tu as généreusement, abondamment partagé ta passion pour ce texte, pour cette langue, et fait lever à quelques générations d'étudiants le goût de la lecture, de la recherche, avec à la fois exigence et cette intensité de vie qui te caractérise aussi. Alors nous sommes impatients de t'entendre parler de Ruth, cette femme que tu connais bien, cette figure que tu fréquentes depuis longtemps. Et voilà, la parole est à toi. Merci.
Alors merci pour cette invitation et pour ces mots d'accueil. J'ai donc intitulé cette conférence « Arrachement, intégration, assimilation, point d'interrogation, lecture croisée du livre de Ruth ». L'histoire de Ruth, on peut la lire comme une belle histoire romantique. Boaz et Ruth endormis sous les étoiles, ça vous rappelle sans doute Ruth songeait et Boaz dormait, l'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement, une immense bonté tombait du firmament, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Je ne vous lis pas tout, hein, parce que c'est long, c'est le poème de Victor Hugo, « Boaz endormi ». Et on a là, avec cette présentation de Victor Hugo, une histoire en harmonie avec la nature, un monde réconcilié sous le champ d'étoiles des astres. J'ai aussi entendu prêcher ce texte de Ruth pour faire de Ruth l'exemple d'une femme soumise et obéissante à sa belle-mère. Ça arrive aussi. D'ailleurs, si vous regardez sur Internet un certain nombre de sites, vous y trouverez ça. Mais je voudrais le lire avec vous ce matin sous l'angle de l'exil et des mille questions que peut poser un exil. Comment le livre de Ruth peut-il nous aider à réfléchir à cette éternelle question du départ et du retour de l'exil ? S'agit-il d'une histoire de migration forcée ou volontaire, pour reprendre des thèmes que vous avez déjà entendus dans ces conférences ? Est-ce un récit d'arrachement, de déconstruction identitaire ? Ou la proposition d'une figure d'intégration réussie. Est-ce que la terre où Ruth arrive avec Noémie va être une terre d'émigration ou une terre d'installation ? Alors pour l'instant, je laisse ces questions ouvertes et vous verrez qu'elles vont rester longtemps ouvertes parce que ce récit peut se lire de beaucoup de façons différentes, et en particulier à partir de différentes situations dans lesquelles on le lit. Et c'est à une sorte de mosaïque de lecture que je vous invite c'est ça que je vous invite à regarder maintenant. Alors, remettons-nous quand même ce petit récit de 4 chapitres en tête, parce que vous ne l'avez pas forcément en tête. On a 4 chapitres qui permettent de s'arrêter sur 4 moments d'une histoire pleine de mouvements, d'allées, venues, d'un territoire à l'autre. Et on peut le constater au départ, c'est la fin, Ephaïm, qui commande les différents mouvements dans ce livre. Le texte nous guide dans un aller-retour de Bethléem au champ de Moab pour cause de famine, et où ceux qui partent ne sont pas les mêmes que celles qui vont revenir. Il esquisse ensuite d'autres allers-retours d'une maison vide, sans pain, au champ ou glané, puis à l'aire de battage, là où se trouve la promesse de la récolte de toute la saison, et puis à la porte de la ville où tout circule, marchandises, habitants, témoins de toutes sortes de transactions, pour finir dans la maison habitée, où le pain et la vie sont revenus, entourés de voisins et accueillant un enfant. Ruth est d'abord une histoire de migration. Une famille part de son pays, Israël, de sa ville, Bethléem, parce qu'à Bethléem, que on peut traduire parfois comme la maison du pain, eh bien justement, il n'y a plus de pain. C'est la famine. La famille d'Élimélec et de Noémie doit s'exiler pour survivre. Doit ou choisit. Peut-être elle a-t-elle le choix, peut-être d'autres ne l'ont-ils pas. Elle doit changer de territoire et partir pour un territoire qui a mauvaise réputation, qui a laissé des traces négatives dans la mémoire du peuple d'Israël. Les Moabites ne sont pas bien vus. Mais la famille d'Élimélec va quand même tenter sa chance là-bas. Et les fils, Malon et Kilion, épousent des femmes moabites, Ruth et Orpha. Et puis les années passent, 10 ans, et voilà que le mari de Noémie et ses deux fils meurent dans ce pays de Moab. C'est la perte des soutiens de famille pour les femmes qui restent. La famine, l'exil, la mort ont brisé une famille qui n'a plus d'avenir parce qu'aucun enfant, aucun fils surtout, ne peut plus naître. Noémie apprend alors que la famine est terminée et elle décide de retraverser la frontière et de retourner à Bethléem. Elle rentre les mains vides, le cœur triste. Elle a tout perdu ce qu'elle avait quand elle est partie. Plus de mari, plus de fils, plus de terre à cultiver, plus d'espoir non plus. Mais elle revient quand même accompagnée d'une de ses deux belles-filles, Ruth. Orpa, elle, l'autre, a choisi, après avoir hésité, de rester à Moab. Ruth est la veuve d'un des fils, Malon. Ce couple n'a pas eu d'enfant et c'est avec elle donc que Noémie va maintenant se battre contre l'adversité. Ruth choisit d'accompagner Noémie, comme elle a choisi d'épouser un étranger qui était venu à Moab. Mais que laisse-t-elle derrière elle? Quel souvenir laisse-t-elle à Moab? Quelle mémoire abandonne-t-elle en passant cette frontière, en entrant dans un pays qui ne veut pas du bien aux gens de son peuple, les Moabites? Le texte ne le dit pas. Le chapitre 2 raconte ce retour et ses débuts difficiles dans ce retour au pays pour Noémie et cette entrée dans une nouvelle vie pour Ruth. Ce retour est vécu au rythme des deux saisons de récolte et les deux femmes vont d'abord retrouver de quoi manger. Ruth et Noémie habitent ensemble à Bethléem. Ruth va glaner dans les champs, faire ce que la loi autorise pour les pauvres et les veuves. Elle ramasse les épis qui tombent des gerbes des moissonneurs pendant la récolte. Ruth se met en danger. Une femme seule et sans défense, qui vient d'un peuple que les gens n'aiment pas. Il peut lui arriver bien des choses dans ces champs, pleins de moissonneurs. Mais elle se retrouve dans le champ de Boz, qui la prend sous sa protection, la fait manger avec le groupe de ses moissonneurs et lui donne des céréales à emporter chez Noémie. Et elle y reste pendant toute la moisson de l'orge et du blé. Le chapitre 3 nous raconte ce qui se passe pendant une nuit très particulière. C'est le temps de la moisson, tout le monde est joyeux, Sur les conseils de Noémie, sa belle-mère, Ruth se prépare, se fait belle et va retrouver Boz sur l'air, là où on bat les épis. Elle n'en a pas le droit en tant que femme et elle vient se coucher près de lui. Il se réveille, elle lui demande de l'épouser, ce qu'il accepte. Et Ruth ne manquera alors plus de mari. Mais au chapitre 4, on nous précise que la loi prévoit qu'une femme veuve et sans enfant doit être épousée par le frère du mari mort et que le plus proche parent doit racheter les terres de quelqu'un qui n'a plus les moyens de vivre. Or, il y a un parent plus proche que Boz qui pourrait être candidat. Boz doit donc négocier avec lui publiquement, c'est ce qu'on nous raconte dans ce dernier chapitre, et ensuite il épouse Ruth, et Ruth aura un enfant, Oved, qui sera rien moins que l'ancêtre du roi David. Ruth et Noémie ne manquent alors donc plus d'enfants, tout ce qui manquait au début de l'histoire est retrouvé. Mais est-ce que tout est bien qui finit bien ? 4 chapitres font donc passer pas à pas du manque au plein, de l'absence d'espoir, de pain, de terre, de descendance, à une plénitude construite dans le passage des frontières et le mélange des générations. Il s'agit d'un récit sans héros unique, où chacun des personnages assume tour à tour un rôle protagoniste, s'expose puis s'efface, laissant à un autre le soin de continuer l'action. Et il s'agit aussi d'un récit où on se parle. Dans chaque chapitre de l'histoire de Ruth, il y a un dialogue important entre deux personnages. Les dialogues sont à chaque fois le moteur des actions, ce qui va faire avancer les choses. Parfois, c'est Noémie qui parle à Ruth, ou Ruth qui parle à Noémie, ou Boz qui parle à Ruth, ou Ruth qui vient parler à Boz, ou Boz qui interpelle l'autre proche parent devant les témoins à la porte de la ville, ou les voisines qui félicitent Noémie pour l'enfant nouveau-né. Tour à tour, chacun fait avancer l'histoire grâce à une initiative, sans attendre un chef qui pourrait donner toutes les solutions, un médiateur qui organise tout à leur place. Chacun et chacune prend la parole et explique à un interlocuteur choisi ce qu'il pense faire. Tout le monde ne discute pas sans cesse avec tout le monde, mais c'est parler à la bonne personne au bon moment. On peut aussi noter dans ces dialogues l'importance de créer des stratégies de protection pour les plus faibles, des espaces de sécurité pour les plus démunis, comme le champ de Boz pour Ruth, la maison pour Naomi. On peut noter aussi le rôle des témoins qui écoutent, les voisines qui entendent la tristesse de Noémie à son retour, veuve de Moab, les témoins à la porte qui permettent d'organiser le mariage. Ces témoins parfois reformulent ce qu'ils comprennent et le disent sous forme de bénédiction. Et puis il y a aussi l'importance pour chacun d'exprimer ce qu'il ressent face à l'autre, dans une situation de tension. Noémie devant ses belles-filles, Boz devant Ruth, Ruth devant Boz, et d'être ce qu'il est. Ruth reste Moabite tout au long du récit. Mahlon et Kilion, les deux enfants, disparaissent rapidement parce qu'ils se nomment maladie et fragilité. Peu d'espoir pour eux. Boz, par contre, a la force d'un pilier. C'est le sens de son nom. Mais est-ce que tout est bien qui finit bien ? Ce récit est un texte qui fait travailler la mémoire du peuple qui le lit, qui l'amène à revisiter les fondements sur lesquels il construit son identité. Notons d'abord une chose étrange et unique dans l'Ancien Testament. Ce récit d'immigration est également un texte nomade dans le canon. C'est le seul qui n'a pas toujours la même place. Mais chacune de ces places, où on peut le trouver, lui redonne un sens nouveau et détermine d'autres enjeux. Il voyage à l'intérieur du texte hébreu, massorétique et de la Septante. Dans le texte hébreu, il apparaît dans la troisième partie de la Bible, ce qu'on appelle les écrits, donc dans une tradition sapientielle. C'est un texte de sagesse, entre les proverbes et le Cantique des Cantiques. Le Targoum de Babylone, lui, le fait figurer en tête de cette tradition sapientielle avant les psaumes. C'est donc un livre qui est proposé comme une réflexion sur l'ordre du monde et comment agir au quotidien. C'est un peu le rôle des textes de sagesse. Mais il apparaît aussi dans un classement liturgique, dans les cinq rouleaux qui sont lus durant les grandes fêtes juives, soit en premier, pour suivre un ordre chronologique, soit après le Cantique des Cantiques, dans l'ordre liturgique, puisque le livre de Ruth est lu pendant la fête de Pentecôte, qui est à la fois la fête des prémices des récoltes et celle du don de la loi, de la Torah, au Sinaï. Et puis dans la Septante, Ruth n'est pas un livre sapientiel et il n'est pas non plus un livre liturgique, mais il est un livre historique qui suit le livre des juges, auquel on fait référence tout au début du livre de Ruth. On dit que cette histoire se passe au temps où les juges jugeaient. Et donc il précède le livre de Samuel, proposant ainsi une mémoire légendaire sur l'origine de la famille de David, dont il sera question évidemment dans les livres de Samuel et des Rois. On peut d'ailleurs établir de nombreuses correspondances entre la fin du livre des juges et le livre de Ruth. Donc il y a plusieurs partis pris de lecture différents du livre de Ruth, déjà selon sa place dans le canon. Mais en plus, une lecture attentive de ce texte montre que ses auteurs relisent avec liberté beaucoup d'autres traditions qui sont présentes dans la Bible hébraïque, aussi bien dans les textes narratifs que dans les textes législatifs. Pour ce qui est des textes narratifs, Ruth reprend un certain nombre de thèmes des récits patriarcaux, mais toujours avec une sorte de parti pris et d'intérêt particulier pour le sort des femmes. Ça vaut quand même la peine de le noter. On y retrouve par exemple une reprise du thème de la famine qu'on trouvait pour Abraham, qui doit partir lui aussi ailleurs, mais qui met en danger Sarah, en lui faisant perdre son statut d'épouse et la faisant passer pour sa sœur pour éviter des malheurs avec le pharaon. Alors que dans Ruth, c'est le sort des femmes qui va être développé et les hommes disparaissent rapidement. Le binôme Ruth-Noémie rappelle aussi des doubles féminins qu'on a dans les histoires des matriarches, Sarah et Agar, Rachel et Léa, mais avec une insistance plus grande ici, en tout cas apparemment, ça peut se discuter, sur la solidarité plus que sur la jalousie entre les deux femmes, comme c'est le cas entre Sarah et Agar et Rachel et Léa. C'est Ruth, avec sa descendance, qui va devenir l'héritière d'un mot très particulier qu'on utilise de temps en temps pour parler de l'amour, de la tendresse, de la fidélité. C'est le mot chesed en hébreu. Et cette chesed, elle est promise en principe au patriarche. Et ici, Noémie, et puis Ruth et Boaz vont utiliser ce mot de chesed. « Béni sois-tu de Yahvé, ma fille, tu as produit plus de bien avec ton dernier acte de bonté. » Le voilà, ce mot, qu'avec le premier, en n'allant pas auprès des jeunes gens, ni pauvres ni riches. C'est ce que dit Boaz à Ruth. Et cette bénédiction fait écho à une autre bénédiction qui avait été adressée auparavant à Boaz par Noémie. Et Noémie dit à sa belle-fille, « Béni soit de Yahvé celui qui ne renonce pas à la bonté envers les vivants et envers les morts. » Ne pas renoncer à la bonté. C'est aussi un des éléments importants dans ce texte. Et puis, il y a aussi une chose assez étonnante, c'est que vous vous souvenez de ce texte de Genèse 2, 24, qu'on lit en général à tous les mariages, hein, l'homme quitte sa famille pour s'attacher à sa femme, avec un mot très particulier, le mot davak, qui veut vraiment dire coller. Hein, c'est comme quand on dit que la langue colle au palais. Et ce mot d'Avak, eh ben, c'est ce qu'on va utiliser dans le livre de Ruth pour dire que Ruth s'attache à Noémie. Ruth s'attache à une vieille femme et non à un mari. Elle part, elle quitte son pays, sa famille, comme Abraham en Genèse 12, mais elle ne suit en cela aucun appel de Yahvé et semble agir de sa propre initiative. Et évidemment, on a aussi remarqué souvent les parallèles entre Ruth et Genèse 19, qui est le récit de l'origine des ancêtres moabites, vous le savez sans doute, à partir de l'inceste de Lot et de ses filles. C'est de là que naissent les Moabites. Ces deux textes, l'histoire de Lot et de ses filles et l'histoire, en particulier le chapitre 3 du livre de Ruth, la scène de la nuit sur l'air, ces deux textes donc mettent en scène l'histoire d'une relation problématique à un moment d'urgence, de crise, entre une femme et un parent proche, d'où naît une descendance. Et ces deux textes ont plusieurs points communs. L'affaire se déroule dans un lieu à l'écart, une grotte pour Lot, l'air de battage pour Boaz. Ça a lieu de nuit, l'initiative vient des femmes, l'homme a bien bu et bien fêté et ne se rend pas compte au départ de qui est sa partenaire. Et un enfant naît de cette rencontre pour Moab directement de l'affaire de la grotte. En ce qui concerne le texte de Ruth, le texte est très discret et on ne sait pas ce qui se passe cette nuit-là sur l'air et quand l'enfant sera conçu, si c'est là ou plus tard. Le texte de Ruth propose donc une façon de rejouer la scène ancestrale moabite, mais cette fois avec plus de clarté. Il y a un dialogue pendant la rencontre. Il y a une promesse de la part de l'homme d'assumer les conséquences de la situation et de résoudre le problème de cette femme. Ruth se prépare, se parfume, s'habille comme pour une cérémonie de noces. Et quand Boaz se réveille dans la nuit, Ruth lui dit « Protège-moi », c'est parfois comme ça qu'on le traduit, mais littéralement elle lui dit « Étends ton manteau sur moi ». Et ça, c'est un geste qui figure dans la cérémonie de mariage. Le mari étend son manteau sur la mariée pour montrer qu'il l'épouse. Le prophète Ézéchiel va d'ailleurs utiliser cette image pour parler de l'alliance que Dieu fait avec Jérusalem. Et après avoir pris cette initiative, Ruth passe en quelque sorte le relais à Boaz. Mais il est très étonnant que ce soit Ruth, l'étrangère, qui dicte à Boaz, l'Israélite intègre et puissant, tel qu'il a été décrit, ce qu'il doit faire, lui rappelant quels sont ses droits selon la loi. Déploie ton aile sur ta servante, car toi, tu es un racheteur. Plus étonnant encore est le fait que Boaz s'y soumette en lui répondant dans une formule qui ressemble étrangement à celle de l'alliance au Sinaï. Tout ce que tu as dit, je le ferai pour toi. C'est ce que dit le peuple quand il entend la loi du Sinaï. Et Boaz va le faire, mais lui aussi, il va interpréter et bricoler les lois à sa manière. Lévitique 25:25 dit « Si ton frère a des dettes et doit vendre une part de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, c'est-à-dire son plus proche parent, viendra racheter ce que son frère a vendu. » Mais cette loi donc du rachat n'a rien à voir nulle part dans tous les textes de l'Ancien Testament avec la loi du Lévirat qui impose aux frères d'un homme mort sans enfant d'épouser sa veuve. Or, Boaz va les tisser ensemble. Au proche parent qui veut acheter la terre, il dit « Si tu veux la terre, tu dois aussi épouser la femme. » Ruth peut donc être lue comme une sorte d'exégèse de différents textes légaux de la Torah. On a vu déjà que Ruth va glaner selon les lois du Deutéronome. Souvenez-vous, vous avez été esclave en Égypte et le Seigneur votre Dieu vous a libéré. C'est pourquoi je vous ordonne d'obéir à ses commandements. Quand vous ferez la récolte, si vous oubliez un tas d'épis dans votre champ, ne retournez pas le chercher. Laissez-le pour les étrangers installés chez vous, les orphelins, les veuves. Alors le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Mais ici encore, les précautions que prend Boaz pour protéger Ruth de violence possible durant la moisson peuvent être une subtile dénonciation du non-respect de ces lois et de ces droits des plus démunis dans la société où vivent les rédacteurs du livre. Et en indiquant aux plus proches parents que s'il veut prendre la terre, il doit aussi épouser Ruth, Boz mélange donc deux dispositions différentes et réinterprète la loi dans le sens de la défense des vivants et non de la protection des morts. Ce petit bricolage permet de redimensionner le poids de la loi à partir de la prise en compte des réalités concrètes présentes. Quand les lois sont mortifères, excluantes, néfastes, quand elles ne défendent pas la vie des plus faibles ou des plus démunis, ben alors il faut les changer. C'est ce que fait Boz. Faire des lois permettant de vivre et non d'écraser. On a donc parlé de Genèse 19, et ici on voit aussi que Ruth, la Moabite, vient déconstruire des préjugés sur Moab, qui sont bien enracinés dans la mémoire d'Israël. Certes, dans le livre de Ruth, Moab est un lieu où on peut aller retrouver refuge en cas de famine et se marier avec les filles du pays, ce qu'ont fait Élimélec et sa famille. Et on trouve cette idée en 1 Samuel où David, quand il est menacé par l'armée de Saül, confie ses parents au roi de Moab. Et en Jérémie 40, on lit aussi qu'au moment du siège de Jérusalem par les Babyloniens, il y avait des Judéens qui se trouvaient et qui avaient trouvé refuge dans le pays de Moab. Mais dans beaucoup d'autres textes, Moab est présenté comme un ennemi dont on se moque, par exemple au début du livre des Juges, parce qu'il a, entre autres, il a un roi qui s'appelle Eglon, le veau, et qui est tellement gras que quand le libérateur vient le tuer, il enfonce son poignard dans le ventre d'Eglon et le poignard disparaît dans la graisse. Donc voilà, c'est pas extrêmement respectueux de cet ennemi. Un ennemi aussi contre lequel on se bat, on en trouve des récits de bataille contre Moab. Un ennemi dont on annonce la destruction, comme celle d'autres ennemis, chez les prophètes, Jérémie en particulier. Un ennemi qu'on massacre sans pitié, dans certains textes de Samuel. Et puis un ennemi que l'on exclut de la communauté religieuse. Deutéronome 23, versets 4 à 7, est extrêmement clair sur l'affaire. Jamais, jamais, l'Ammonite et le Moabite n'entreront dans l'assemblée du Seigneur. Même la dixième génération des leurs n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur, du fait qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur votre route à la sortie d'Égypte, et que Moab a soudoyé contre toi pour te maudire Balaam. Vous savez, c'est la fameuse affaire de l'ânesse. Jamais tu ne rechercheras leur prospérité ni leur bonheur tant que tu seras en vie. Ruth est Moabite. Et vous comprenez bien que sur cet arrière-fond, faire de Ruth la Moabite la grand-mère du roi David est une véritable bombe pour ceux qui ne veulent pas d'étrangers en Israël. On pourrait encore retrouver bien d'autres allusions à différentes parties de la tradition dans le récit de Ruth, mais j'en mentionnerai encore seulement une. Ruth est qualifiée par Boz de femme de valeur, Eshet Ra'il en hébreu, de femme forte. C'est une expression qu'en général, d'ailleurs, on trouve plutôt pour des guerriers. Et cette expression ne se trouve ailleurs pour qualifier une femme que dans le livre des Proverbes, mais dans des expressions plutôt classiques d'une idéologie patriarcale. On parle en Proverbe 12 d'une femme vertueuse couronne de son mari. Je vous laisse apprécier. Parce que dans ce cas-là, souvent on traduit ce « forte » ou bien « de valeur » par « vertueuse ». Et vous voyez le glissement, pas du tout anodin, que ça provoque. Et puis Proverbe 31, le dernier chapitre des Proverbes, s'interroge sur une femme forte, vertueuse, enfin vous pouvez mettre la traduction que vous voulez, qui peut la trouver? Or, Boz semble justement répondre à cette question. Il la reconnaît dans Ruth. Femme étrangère, née d'un peuple maudit, exilée sans ressources en Israël. Attribuer à Ruth ce qualificatif déplace quelque peu les frontières de la sagesse. Faire arriver Ruth au cœur de la généalogie du grand roi David, c'est donc proposer une histoire qui fait changer la vision de l'identité du peuple, qui s'attaque aux préjugés tenaces et qui questionne les lois et remet en mouvement tous les lecteurs et les lectrices. Mais alors, finalement, est-ce que tout est bien qui finit bien? Eh bien, pas forcément. Il existe aussi beaucoup de lectures actuelles du livre de Ruth qui viennent interroger les traditions de lecture de ce livre. Et je pense que c'est vraiment la liberté d'interprétation interne que nous offre ce texte, qui revisite la mémoire dans différents éléments. C'est bien cette liberté interne qui nous permet à notre tour de le réinterpréter et de poser d'autres questions à partir de nos propres contextes. Et j'observe que l'ambivalence présente dans ce livre se retrouve dans ses interprétations actuelles. D'une part, un certain nombre de lectures font de ce livre un récit qui s'inscrit dans une dynamique, on appelle ça aujourd'hui une dynamique d'empowerment, une dynamique qui cherche à donner de la force, une dynamique susceptible de changer la vision du monde et en particulier d'encourager des femmes en situation difficile à transformer leurs conditions de vie en gagnant de la confiance en elles et en leur possibilité de transformer leur réalité et de s'affirmer comme sujet dans des réalités familiales et sociales difficiles. Et je peux vous dire que pour avoir lu ce livre dans différents contextes et sous différents horizons, ça marche. Mais d'autres lectures soulignent aussi quelques aspérités du texte et gardent une certaine méfiance quant à son pouvoir subversif. En d'autres termes, Ruth est-il un récit édifiant qui confirme le monde tel qu'il est, qui justifie le mariage comme condition nécessaire de toute femme qui se respecte, ou est-il une parabole subversive qui reconstruit le monde, qui propose une diversité de points de vue? Parmi les lectures qui voient en Ruth un texte extrêmement puissant, invitant à la transformation de la réalité, on peut citer plusieurs relectures latino-américaines et africaines. Des lectures faites à partir de la réalité des femmes indigènes des pays andins, par exemple, en Bolivie, à l'occasion d'une marche vers la paz qui souligne l'alliance faite entre ces deux femmes, Ruth et Noémie, de pays antagonistes, et qui luttent ensemble de façon solidaire pour leur survie commune en dépassant les haines du passé. Elles reprennent cette démarche pour promouvoir l'alliance entre des communautés indigènes, parfois rivales, pour défendre leur territoire et leur dignité. Du côté des femmes africaines, une exégète, Madipoane Massenia, en Afrique du Sud, insiste sur l'histoire de Ruth en soulignant l'effort des femmes qui affrontent le manque et la pauvreté dans un monde hostile où règnent les pères et les maris. Bien qu'en situation de vulnérabilité, elles refusent de se laisser aspirer par le vide et deviennent les agents de leur propre survie. Elle souligne également l'importance du livre de Ruth pour réfléchir à l'impératif du mariage dans de nombreuses sociétés africaines où le mariage est idolâtré et où une personne non mariée, homme ou femme d'ailleurs, n'est pas considérée comme pleinement réalisée. Elle reprend le qualificatif de femme de valeur pour l'examiner à la lumière de la société sud-africaine. Pour elle, le livre de Ruth est ambivalent car s'il présente une histoire de courage, d'espoir de femme au milieu de la désolation, il peut aussi être lu de façon très conformiste, comme justifiant le mariage comme unique option faisant sens dans la vie d'une femme. Il s'agit donc de rendre présente la distance culturelle entre le monde des rédacteurs de Ruth et le monde des lecteurs et lectrices d'aujourd'hui. de montrer comment le Dieu biblique n'est pas enchaîné par des liens culturels et comment Ruth peut donner espoir à beaucoup de femmes qui aujourd'hui ne sont pas en mesure de lutter seules contre des situations sociales structurées fortement par des règles patriarcales. Madeponane Massenia a aussi développé l'idée que le livre de Ruth peut aider à réfléchir à la question complexe de la relation entre les vivants et les morts. En effet, dans la société africaine, les autorités des ancêtres parlent, demandent, envoient des punitions ou des bénédictions. Et alors, on peut se poser la question, Noémie doit-elle aussi affronter ses ancêtres ? Noémie rappelle les morts au début du texte et au chapitre 2, elle invoque la bénédiction de Yahvé sur les vivants et les morts. Et à la fin, Ruth est appelée la femme du mort. Et Boaz rappelle le nom de son mari. Premier. Pense-t-elle alors, Noémie, que tout ce qui est arrivé est dû au fait que les morts n'ont pas été honorés comme il se doit ? Boaz sert-il alors de lien entre les vivants et les morts ? Et contribue-t-il à casser un système où les hommes morts continuent à peser de tout leur pouvoir sur les femmes vivantes? Une autre ligne de réflexion africaine concerne la question du lien entre le lévirat et le sida. La pratique du lévirat, donc d'épouser une femme veuve d'un homme mort qui parfois est mort du sida mais ne l'a pas dit, pouvant donc être un moyen de contamination importante. Et là aussi intervient l'importance de déconstruire des soi-disant évidences bibliques qui intimeraient à toute femme d'épouser le frère de son mari. Et que dire des sugar daddy, ces hommes d'un certain âge avec des moyens économiques et une reconnaissance sociale qui se paye la présence, la compagnie, la jeunesse de jeunes filles africaines pour qui c'est le seul moyen d'assurer leurs études ou de soutenir leur famille démunie. Boaz est-il un sugar daddy? Les lectures féministes et postcoloniales de Ruth ne sont donc pas toutes enthousiastes et certaines soulignent certains points critiques sur lesquels vient buter la lecture. Outre la question du mariage, déjà mentionnée, la vision de la famille et de la migration est reprise sous différents angles. Cette démarche de redonner confiance aux femmes vulnérables ne reste-t-elle pas finalement dans un cadre promouvant les intérêts patriarcaux? Cette fameuse solidarité féminine est-elle vraiment au centre du récit et à qui profite-t-elle? L'exploitation d'une étrangère peut-elle être une source d'inspiration? Ces questions relancent les lectures et les débats. Atalia Brenner, une exégète israélienne, par exemple, relie l'histoire de Ruth à la lumière d'un fait divers dans la société israélienne de la fin des années 2000. Le récit d'une interpellation d'une femme étrangère, travailleuse agricole émigrée en Israël, en situation illégale, menacée d'expulsion, qui va finalement se faire épouser par le propriétaire de la ferme où elle travaille. Elle part alors d'une description de la situation difficile des femmes émigrées venant de Thaïlande, des Philippines, de Roumanie ou de Chine en Israël depuis la fin des années 80, appartenant au flux de ces travailleurs globaux qui suivent la fluidité de l'économie mondialisée. Et elle propose alors de relire Ruth comme une figure proche de ces femmes, d'une façon beaucoup moins idéaliste qu'on le fait souvent. Pourquoi Ruth suit-elle Noémie? Par amour, solidarité, ou simplement pour partir tenter sa chance à l'étranger, qui lui semble de toute façon préférable à sa situation de veuve sans enfant d'un mari étranger, donc sans mâle adulte protecteur à Moab? Pourquoi chercher dans nos lectures des motifs romantiques ou spirituels? Ruth part parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est toujours désignée comme l'étrangère, la Moabite. Elle travaille comme ouvrière agricole et finit par se faire épouser par une riche figure locale. Elle y trouve une certaine sécurité, mais à la fin, elle disparaît de sa propre histoire. à partir de la naissance de l'enfant, elle n'est plus mentionnée dans le texte. Elle est donc plutôt assimilée qu'intégrée. En creusant ce sillon, une lecture postcoloniale en termes de classe, d'ethnicité, d'économie, de genre, Laura Donaldson, qui est une exégète méthodiste nord-américaine d'origine cherokee, indienne, dénonce dans les lectures la stratégie d'intermariage qui est promue par le livre de Ruth comme une stratégie assimilationniste d'absorption sociale. Elle cite le président américain Jefferson qui préconisait les mariages mixtes entre les blancs et les noirs dans ce cas-là parce que, disait-il, avec le temps, vous, les noirs, vous deviendrez ce que nous sommes, les blancs. Cette stratégie est donc l'œuvre d'un pouvoir colonial et non celle d'une solidarité interethnique. Ruth est plusieurs fois désignée comme servante et finalement réduite au silence. Elle devient l'image d'une collaboration silencieuse avec les dominants, image négative à laquelle il faudrait opposer la figure trop souvent négligée d'Orpah, un modèle de résistance qui, elle, n'accepte pas d'être stigmatisée dans une culture dominante et préfère rester à Moab et retrouver la maison de sa mère. On peut donc lire ce livre de bien des façons différentes. Y a-t-il ou non des métissages possibles ? Quelle stratégie de traverser des frontières pourrait-on inventer ? Ces questions et beaucoup d'autres rouvrent la lecture. Il s'agit donc de donner leur chance à toutes les questions qui naissent d'une pratique collective de lecture, basée sur les expériences de vie des lecteurs et des lectrices dans une démarche de reconnaissance à part entière de ces expériences et pas seulement de tolérance un peu exotique. Le texte assume alors la fonction de miroir de réalités diverses, plus ou moins désirées, assumées, analysées et pousse à creuser plus profondément les options choisies. Il nous amène à construire et déconstruire l'histoire, à en saisir parfois la force irrésistible qui mène à ne pas accepter un destin implacable et à d'autres moments à remettre en question ce à quoi l'on croyait et qui peut mener à des impasses. Il nous propose une identité qui n'est pas à aller chercher dans sa mémoire, dans des souvenirs plus ou moins arrangés, mais une identité qui se construit au fil des pas, comme un itinéraire partagé. Et pour terminer, je vous laisse avec une citation de Achille Mbembe, qui, dans une éthique qu'il propose comme l'éthique du passant, dit « Pour dépasser les logiques de la frontière, de l'enracinement et du semblable, la déliaison et l'inimitié, l'éthique du passant doit s'ouvrir à un processus où le devenir homme dans le monde, j'aurais tendance à dire le devenir humain dans le monde, n'est pas une question de naissance ni de race, mais de circulation et de trajet à penser comme transfiguration, celle d'un sujet qui embrasse la part morcelée de sa vie. Je vous remercie.
Merci Corinne pour cet élargissement de la lecture, du regard, de l'identité, de la possibilité d'avancer et de cheminer que tu nous as offert ce matin. Voici le moment de la confession de foi et je vous invite à vous lever et vous associer par le cœur, si vous le voulez, à celle-ci. Je crois en Dieu qui veut l'amélioration de l'être vivant. Je crois en Dieu qui n'a pas créé le monde comme un objet déterminé, destiné à demeurer tel qu'il est. Je crois en Dieu qui ne gouverne pas selon des lois immuables et imprescriptibles, instituant des forts et des faibles, des savants et des ignorants. Je crois en Dieu qui veut l'amélioration du vivant. Je crois en Jésus-Christ. Il a travaillé à la transformation de l'état des choses et il y a laissé sa vie. À son échelle, je mesure la petitesse de notre intelligence parce que nous ne vivons pas comme il vivait. J'ai peur quotidiennement qu'il soit mort pour rien quand nous l'enfouissons sous nos rites et nos conventions. Je crois en Jésus-Christ qui ressuscite dans notre vie afin que nous soyons libres à l'égard des préjugés et de l'orgueil, de la peur et de la haine. Je crois en l'Esprit que Jésus nous a laissé. Je crois à la communauté de tous les peuples et à notre responsabilité face à l'avenir de notre terre qui sera ce que nous en ferons, soit une vallée de larmes, soit une cité de Dieu. Amen. Et nous chantons ensemble au psaume 23, toutes les strophes. Dieu, mon berger, me conduit et me garde.
Thank you.
prenez place. Quelques annonces en ce dimanche 4 février. D'abord pour vous dire qu'après le culte, nous pourrons encore prendre un instant avec Corinne et les uns avec les autres, puisqu'un verre de l'amitié est servi dans la salle vitrée dans l'entrée. Donc si vous avez le temps et si vous avez des questions à poser à Corinne, eh bien ce sera le moment. Comme tous les dimanches, une collecte est organisée au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Et vous pouvez y déposer produits alimentaires non périssables, produits d'hygiène, produits d'entretien dans l'autre salle à l'entrée du temple, la salle dite au portrait. Et la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin est affichée dans l'entrée. Cet après-midi, premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la cantate, BWV 148 aujourd'hui, et ce sera aussi l'occasion, la belle occasion de la séance de catéchisme de ce mois-ci pour les jeunes du caté qui assisteront à la cantate avant de parler un peu de l'expression de la foi dans l'art. Avec Bach, évidemment. La semaine prochaine, à mardi 6, il y aura, à partir de 11h30, la pause biblique où nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Galates. Donc, autour d'un très bon repas préparé par Nicole, notre organiste du jour. Donc, merci de la prévenir si vous êtes intéressés. Ensuite, à 20h, ce sera la séance du Conseil presbytéral du mois de février, avec, pour ceux qui le peuvent, un moment convivial à partir de 19h. Mercredi 7 à 19h30, c'est l'autre groupe biblique, le groupe du soir, qui se réunira dans la salle du second, avec l'étape suivante sur notre parcours du Sheol à la résurrection. Jeudi 8 à 12h30, de 12h30 à 13h30 dans le temple, ce sera la pause spirituelle comme tous les jeudis. Et puis dimanche prochain, le culte ordinaire, si je puis dire, après toute cette magnifique série, le culte dominical, donc à 10h30 dans le temple, qui sera suivi du repas des jeunes et moins jeunes, c'est-à-dire tout le monde, enfin tous ceux qui veulent. Et vous serez, vous êtes donc invités, si vous le pouvez, dans la salle du deuxième. Chacun apporte quelque chose à partager. Soit préparé à l'avance, soit aller chercher au marché, au marché le dimanche. Et puis, si vous n'avez rien, ça n'est pas grave. Et au cours de ce repas, ceux qui le veulent pourront partager une de leurs bonnes lectures récentes. Voilà. Donc, le repas des JMJ au deuxième étage. Et puis, il y a maintenant une annonce de l'entraide.
Oui, merci. Alors, je veux juste rappeler que l'entraide de la paroisse participe à l'accueil de jeunes migrants qui sont hébergés à Toulon par Welcome Var. Voilà, des jeunes qui viennent là parce qu'ils choisissent la vie, à vrai dire. Et nous avons besoin vraiment... Enfin, les convocations à l'OFPRA et à la CNDA s'accélèrent actuellement. Et on a besoin de soutien... Pour héberger une nuit, si possible, et surtout pour accompagner, et surtout pendant la période, la période des vacances scolaires de Paris, là, du 10 au 25, où on a trois accueils et très peu de bras pour accueillir. Et je vous remercie si vous avez des possibilités ou si vous avez des amis qui peuvent héberger, accompagner. Vous me faites signe ou vous faites signe à Dominique qui vous donnera mes coordonnées. Merci beaucoup.
Et je précise que les hébergeurs ne sont pas forcément les accompagnateurs. On peut aussi se partager la tâche. Voilà. Micheline.
Si. C'est aujourd'hui la journée internationale de la fraternité humaine qui a été déclarée il y a quelques années à la suite de la rencontre du pape avec le cheikh d'Al-Azhar Mohamed Al-Thani. Cette journée reprise par les instances internationales a pris beaucoup d'ampleur et toutes les associations, tous les mouvements qui sont engagés dans le dialogue, dans la paix, en profitent pour faire des signes et rappeler que cette fraternité dont nous avons eu, je dois dire, des récits, des exemples ce matin dans la lecture de Luc, dont notre confession de foi rappelle véritablement qu'elle est au cœur de notre foi, a pris donc corps de cette manière-là. Alors pour ceux qui ont lu notre bulletin du Foyer de l'âme, ils ont peut-être pris connaissance du GAIC, groupe d'accompagnement, groupe d'amitié islamo-chrétienne, dont je suis coprésidente avec un président, un coprésident musulman. Et le GAIC a décidé, dans le cadre de cette journée de la fraternité, d'organiser un concert, parce que nous avons pensé que se retrouver dans la beauté, finalement, c'est très fédérateur. On n'a pas besoin de paroles, on peut se retrouver dans cette communion de la beauté. Et ce concert aura lieu tout à l'heure, alors vous allez avoir une journée très musicale si vous décidez d'y participer, tout à l'heure à Notre-Dame de l'Espérance, rue Roquépine, à 14h30. Rue de la Roquette, à 14h30. Et il y aura à la fois des chants religieux chrétiens et des chants musulmans par un chanteur marocain. Voilà, et ensuite, évidemment, un moment de convivialité. Alors, je vous invite à y venir. Merci.
Et peut-être entre le concert de 14h30 et celui de 17h30, vous aurez une petite demi-heure de lecture. Et pour cela, je remercie Christelle de la librairie protestante C'est ici qui a accompagné ce cycle de culte conférence avec un stand de livres et donc qui est encore ici présente aujourd'hui et qui peut donc qui sera là à la fin du culte. N'hésitez pas à aller voir les livres qui sont proposés. S'il n'y a plus d'annonces à partager, eh bien voici le moment de l'offrande. Cette offrande qui aide le foyer de l'âme à accomplir sa mission d'hospitalité, d'accueil, d'ouverture, de proclamation de l'Évangile de bien des manières. Pendant cette offrande, nous écoutons l'orgue, mais surtout que votre don soit libre et joyeux. Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière d'intercession. Dieu, du sommet de l'amour, du sommet de la justice et de la paix, tu es venu habiter à jamais notre histoire. Tu es venu afin que tous et toutes aient la vie et l'aient en abondance. Vois comme nous sommes aujourd'hui séparés, répartis sur des sommets de pouvoir, de connaissance, de richesse, ou luttant au fond d'obscurs ravins de dénuement, d'exclusion, de souffrance. Pourtant, nous aspirons à une humanité basée sur la coopération plutôt que sur la concurrence, sur la participation plutôt que sur la domination, sur le partage du bien commun plutôt que sur la spéculation, sur la solidarité plutôt que sur l'égoïsme et le profit. Nous reconnaissons aussi que nous ne sommes pas toujours pour rien dans les injustices que nous dénonçons. Et toi, Dieu, sommet du don et du partage, tu as confié à nos mains fragiles la terre si belle, avec tant de richesses. Rappelle-nous ton rêve d'humanité et de partage. Dieu des solidarités, souffle à nos oreilles des accords basés sur le bien commun, où la personne humaine est au centre du développement. Réveille en chacune, en chacun, la volonté de bâtir un monde nouveau, un monde transformé par la justice et la liberté dont tu rêves et dont nous rêvons aussi. Rassemblés dans la prière, nous pouvons dire à voix haute ou dans le secret de notre cœur celle que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique de ce culte conférence au numéro 258. Nous te célébrons, Dieu de vérité. Nous chantons les trois strophes.
Thank you.
Recevez la bénédiction de la part de l'Éternel. Amis, frères et sœurs, au creux de vos vies, Dieu dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, Dieu dépose son amour. Dans vos regards, Dieu dépose sa lumière. Au fond de vos cœurs, Dieu dépose sa paix. Et ainsi, il vous bénit aujourd'hui et à jamais. Amen.